France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore what you do.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si on ne pouvait plus la voir en peinture? Qui ça? Mais le plus célèbre des tableaux, justement, la Joconde. On en a tellement parlé. Elle fut tant de fois décrite, reproduite, détournée, dispersée, démembrée même. Vous voyez là, qui s'évapore comme une buée sur les fenêtres de nos imaginaires. Alors, on peut se poser la question, est-on certain d'avoir encore besoin de la regarder lorsqu'il suffit désormais de l'imaginer? Et ne finira-t-elle pas par se délayer dans la succession de ses apparitions imaginaires? Il y a, paraît-il, des parents inquiets de voir leurs enfants s'absorber dans la lecture. « Tu vas t'user les yeux », disent-ils. Et si c'était l'inverse? Et s'il y avait des œuvres d'art qui s'usaient à force d'avoir été trop regardées? La Joconde, qui s'écaille sous le poids du fétichisme qu'elle inspire, le romancier Stefano De Guy a imaginé cela dans un roman qui s'appelle « L'avenir ». Appartient-il à celles et ceux qui sauront se passer des images? On en parle dans « Allons-y voir » avec Stéphane Audeguy, donc, mais aussi avec Nathalie Kremer, qui a traqué les tableaux fantômes, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Sophie Grasse. Car, c'est bien connu, l'histoire de l'art raconte des histoires de fantômes pour grandes personnes, c'est-à-dire pour celles et ceux qui acceptent cette idée dérangeante. On n'a pas besoin de voler les tableaux pour les faire disparaître.
On a volé la Joconde. Quand, dans la soirée du 22 août 1911, retentit partout ce cri des vendeurs de journaux, une immense émotion s'empare de Paris pour bientôt gagner toute la France. La Joconde. La plupart de ceux qui déplorent ainsi sa disparition ne l'ont jamais vue. Beaucoup même entendent pour la première fois prononcer son nom. Mais celui-ci, avec la magie de ses trois syllabes et le mystère que depuis des siècles elle véhicule, hypnotise la foule que brusquement il soumet au pouvoir surnaturel qu'exercent les grandes œuvres d'art. La Joconde perdue, c'est pour tous ces gens généralement si prosaïques, un événement plus navrant encore que l'assassinat d'un président de la République ou la mort d'une actrice adulée.
Stéphane Audeguy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous plantez souvent votre prose désenchantée dans l'histoire des arts. Le cinéma, votre art romanesque étant à bien des égards un art du montage, mais aussi l'architecture ou la peinture, je pense à Rome, mais aussi à votre premier roman, La théorie du nuage. Celui qui est paru aux éditions du Seuil en janvier de cette année, c'est le 8e. Il se nomme L'avenir. Et pour vous, un avenir sans Joconde, ça peut être un avenir radieux.
Absolument, à partir du moment où ce qui s'est joué dans la Joconde se rejoue autrement, sous d'autres formes ou d'autres latitudes, oui.
Et notamment dans la fiction.
Et bien sûr dans la fiction.
Eh bien, on va en parler avec vous de la fiction. Bonjour Nathalie Kremer.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université Sorbonne Nouvelle, un membre de l'Institut Universitaire de France, spécialiste du roman du XVIIIe siècle, mais aussi de la théorie esthétique. Et on va voir qu'au croisement de ces deux objets de recherche, il y a Diderot. C'est lui qui invente la fiction iconoclaste, dont vous avez fait un beau livre, Tableau fantôme, quand la fiction montre les œuvres disparues, paru chez Hermann en 2023. Mais bien sûr que le livre de Stéphane Audeguy pourrait y être.
Bien sûr, le corpus est loin d'être fini et vous le montrez parfaitement avec ce nouveau roman, Stéphane.
Alors justement, les romans iconoclastes, c'est-à-dire les romans qui fictionnent une disparition d'œuvres d'art, pas un vol, mais une disparition, c'est assez récent. Hein. En fait, il y a Diderot, bien sûr, mais essentiellement, votre corpus, il commence avec Gogol, le portrait, et avec Balzac. avec le shader inconnu.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant, hein, que, à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple de fiction qui prend pour objet de son histoire la disparition ou la destruction d'une œuvre d'art, que ce soit une peinture ou une sculpture ou une autre forme, avant Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, qui date de 1831, ou Gogol, qui est contemporain, 1835. Mais disons qu'à partir de ce 19e siècle, on peut trouver un vaste ensemble de types de textes très différents, qui sont initialement dans le genre du récit fantastique, mais pas uniquement, et qui jusqu'à ce jour, avec Stéphane Audeguy, et on n'est pas tout à fait dans le fantastique d'ailleurs, hein, se développe.
Et justement, vous faites une typologie de ce qui peut arriver quand une œuvre d'art disparaît, elle s'évanouit, elle demeure encore dans les imaginaires, c'est ce que vous appelez l'ineffacement, on va parler de tout ça. Parmi les différentes manières de détruire une œuvre d'art, celle que met en scène Stéphane Audeguy, elle serait où dans votre livre? Elle serait comparable à quoi?
Alors, dans le livre, je distingue trois types de disparitions d'œuvres auxquelles il me semble qu'on peut ramener tous les cas. Et celui qui est imaginé, j'allais dire proposé, mais bon, on va dire imaginé par Stéphane dans son roman, correspond au cas que j'ai appelé la disparition par délaiement, qui consiste en une forme de disparition de l'image par évaporation, dilution. C'est ce cas de figure-là auquel on peut rattacher la destruction de la Joconde que vous imaginez.
Vous êtes d'accord, Stéphane Audeguy ?
Oui, et d'autant plus que moi, ce qui m'intéresse dans cette modalité de la disparition, c'est la poussière. Et je me rends compte, en fait, que depuis la théorie des nuages, d'ailleurs, je suis fasciné par les pulvérisations. Par cet effet-là, même dans Roma, je pense. Je suis très, très...
Dans Roma, c'était le marbre.
C'était le marbre.
Qui s'éparpillait, oui. En fait.
Le marbre s'éparpillait et moi je me rappelle de mon émotion quand j'ai appris que le marbre pouvait brûler. Alors, peut-être tout le monde savait ça, mais moi je ne savais pas.
Alors, vous savez, il y a plusieurs types d'émissions de radio. Il y a des émissions qui, au fond, parlent tellement des livres qu'on en est à la fin repu. Moi j'ai envie que les auditrices et les auditeurs lisent votre livre et qui est foisonnant, qui n'est pas dans cette monotonie un peu mélancolique qui fut la prose des premiers romans, mais qui est enfin avec beaucoup de rebondissements. Donc on va pas tout raconter, hein, d'accord, Stéphane. Mais qu'est-ce qui se passe quand même et ça on le voit depuis quel œil, hein, un œil chinois, Li Feng.
On le voit d'un œil chinois, c'est-à-dire que effectivement le roman est construit au départ sur la visite d'un vieil homme chinois qui a participé à la révolution culturelle et qui s'est pris par la suite, il est passé d'iconoclaste à iconophile et il s'est pris de passion pour cette Joconde qu'il n'a jamais vue et toute sa vie il prépare en quelque sorte le moment de la voir. Et par un paradoxe qui n'est pas une contradiction, quand il arrive pour la voir, c'est là qu'elle disparaît.
Oui.
Et cette énigme-là m'intéressait.
Alors vous imaginez un regard chinois sur la Joconde, c'est-à-dire un Chinois qui va chercher évidemment d'abord les paysages. Alors d'une certaine manière, bon, cette émission, elle commence normalement par une description. Là, on n'a pas vraiment besoin la Joconde. Sauf à considérer qu'on ne voit pas vraiment ce que voit votre Chinois, c'est-à-dire le fond. Un fond assez chaotique, hein, quand même, puisque derrière Mona Lisa, il y a ce paysage d'avant l'homme ou d'après l'homme, on ne sait pas, c'est la préhistoire ou l'après-histoire, mais la destruction a déjà commencé en fait.
La destruction a déjà commencé, c'est un tableau catastrophique, c'est un tableau qui dit c'est une sorte de catastrophe de la peinture, assurément. Alors tous les spécialistes évidemment connaissent ce paysage derrière, mais si vous demandez au grand public qu'est-ce qu'on voit dans la Joconde, ben, on voit une dame, on voit un personnage, on voit une figure, mais on ne voit pas un paysage.
Et derrière, c'est un paysage désolé, c'est une vallée qui est privée de son cours d'eau.
Absolument, et c'est une vallée où il y a un pont. Alors le pont, parfois, est aperçu. C'est peut-être la seule trace humaine aussi. Mmh. Un tableau post-humain ou pré-humain, on ne sait pas trop. Mais effectivement, il y a là quelque chose de très frappant et qui me fascine, moi, comme écrivain, c'est le rapport, comme amateur de tableaux, c'est le rapport du paysage au corps féminin et du corps féminin au paysage.
Léonard est dans votre livre, hein, Nathalie Crémer. Il est dans votre livre, justement, à travers ses carnets et cette volonté qui était sienne de dire à ses disciples, ben, justement, précisément, plus l'objet s'éloigne de votre perception, plus vous devez le faire poudreux, justement, et il s'évapore sous le pinceau du peintre.
Oui, tout à fait, effectivement. C'est un des passages écarnés de Léonard de Vinci où il pose aussi pour principe que plus on va effectivement s'éloigner dans le détail, moins il faut travailler de façon précise pour le peintre. Donc, c'est des recommandations qu'il donne au peintre.
Oui, bien sûr. Oui. Il y a aussi cet exercice qu'il propose de regarder des tâches ou de regarder...
Et voilà, effectivement, il y a un passage très célèbre où il... dans ses conseils qu'il donne aux peintres, où il justement pour stimuler leur imagination, il y a un passage où il leur demande de regarder un mur qui est, dit-il, plein de taches. C'est le mur taché de Léonard, hein, barbouillé de taches. Voilà. Et il écrit que les peintres y verront ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent imaginer, des fleuves, des arbres, des collines.
Absolument.
Donc, moins on y voit, plus on pourra imaginer des images.
Voilà, on n'y voit rien, comme disait Daniel Arras, mais là, on ne voit rien. Rien, c'est quelque chose.
Et alors justement, c'est ce qui se passe avec la Joconde dans votre roman, L'Avenir, Stéphane Audeguy, avec cette idée que au moment où elle réapparaît, c'est le fameux vol de la Joconde en 1911, d'une certaine manière, les gens ont envie de la voir alors que peut-être ils ne l'avaient pas vue, mais ils vont tellement la voir qu'elle disparaîtra sous leur regard. Écoutez cette archive radiophonique, c'était en 1950, et Blaise Sandrars répondait aux questions de la RDF.
Dans la série des entretiens, la radiodiffusion française présente... En bourlinguant avec Blaise Sandrars.
À propos de policiers, vous avez eu l'impression que depuis le vol de la Joconde au Louvre, tous les poètes avaient une fiche à la Sûreté Générale.
Oui, c'est exact.
Et vous le croyez encore ?
Et nous la devions à Polinaire qui a été accusé d'avoir volé la Joconde.
Par conséquent, vous voyez, vous avez...
Alors qu'en réalité, nous avons tout de même fini par apprendre, le monde entier a fini par apprendre que l'instigateur du vol de la Joconde n'était pas Polinaire, mais D'Annunzio. C'est D'Annunzio qui a envoyé le voleur, qui était un Italien, j'ai oublié son nom, tout ça est une histoire tellement vieille. Mais si vous aviez vu à l'époque tout Paris défiler au musée du Louvre devant l'emplacement qui avait été occupé par la Joconde, bon, je vous assure, il y avait de quoi se marrer.
Et c'est pour ça qu'Apollinaire a été arrêté.
Bien, Apollinaire a été arrêté parce qu'Apollinaire avait un secrétaire, un Belge, un bon buveur. Et alors, il pariait une caisse de champagne, même souvent une simple bouteille de champagne, qu'il irait au Louvre voler des tanagras, et qu'il sortirait avec les tanagras sous le bras, et qu'il serrerait la main à tous les gardiens du musée du Louvre, n'est-ce pas? Et comme il a réussi son truc plusieurs fois, il déposait les tanagras à Apollinaire, lequel Apollinaire les distribuait à des amis, Picasso et d'autres, n'est-ce pas? Et alors, quand... La Joconde a été volée, Apollinaire pris d'une sainte pétoche, s'est dit on va inventorier le Louvre, on va découvrir tout ce qui manque, on va faire une enquête, etc.
Il y avait de quoi se marrer, dit Blaise Sandrars, Stéphane Audeguy.
Il y avait de quoi se marrer. Alors, je ne connaissais pas la thèse d'Annunzio personnellement, ouais, ouais. Que je trouve formidable naturellement, mais oui, il y a quelque chose... Alors je ne sais pas pourquoi on accuse Apollinaire, mais il y a peut-être une raison plus profonde que la simple anecdote, puisque peut-être qu'Apollinaire lui-même attaque un certain type de figurativité dans la peinture. Mais enfin, moi, ce qui m'a troublé dans le vol, là, c'est que l'homme qui a volé, qui s'appelle Perugia, est un homme qui était chargé précisément de mettre des vitres sur les tableaux pour les protéger contre les attentats, parce que l'iconoclastie à l'égard de la Joconde commençait à grimper. Donc il y a là quelque chose de frappant. Il y a une cristallisation sur la Joconde et une agressivité à l'égard de la Joconde qui se joue dans un moment où la peinture elle-même a aussi muté considérablement.
Alors, on accuse le poète, Nathalie Kremer, aussi parce que, d'une certaine manière, la poésie, elle produit, c'est ce qu'on comprend à vous lire, justement ce que Michel Deguy appelle l'ineffacement. C'est-à-dire que dès lors que on met des mots sur la peinture, dès lors que ces mots frappent l'imaginaire, alors arrive le moment où, d'une certaine manière, on ne peut plus détruire la peinture, puisqu'elle demeure. Elle demeure dans la poésie, elle demeure dans la littérature. Et c'est cette question de la, non seulement de la disparition, mais au fond de la survivance par la fiction que vous posez dans ce livre sur les tableaux fantômes.
Oui, en fait, c'est le cœur du sujet, effectivement, qui est signifié dans ce terme d'ineffacement que je reprends à mon compte pour qualifier cette façon qu'a la fiction et toute œuvre faite de langage, de représenter une forme donnée à voir imaginairement, une forme, une figure, mais qu'on ne peut évidemment voir et qui ne peut être que imaginée mentalement. Alors, l'ineffacement, l'ineffacé, c'est... se définit comme le disparu qui reste présent. Donc il y a dans tout le corpus de textes que j'ai étudié où ont lieu des disparitions dans plusieurs formes différentes, mais des disparitions d'œuvres d'art, on a dans tous ces textes différents sans cesse une forme de permanence, de présence, mais totalement imaginaire et à imaginer, d'œuvres qui sont détruites, ont disparu, ont été volés, voilà, mais qui, en même temps, ont une forme de présence, une forme aussi d'attractivité, de fascination qu'elles exercent à travers ce que les mots permettent de générer, de faire imaginer.
Mais alors, si Diderot...
Stéphane Audeguy.
Si Diderot décrivait les œuvres dans ses salons, par exemple, c'est par manque d'illustration, si je peux dire, les hypotyposes de Diderot sont là pour remplacer une image. Et là, dans ce que vous décrivez, c'est d'autres motivations, naturellement.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'effectivement, Diderot, c'est l'inventeur de la critique d'art, avec les salons qu'il écrivit au XVIIIe siècle, à partir de 1759. Et il a pour mission de, effectivement, d'écrire des tableaux qui sont exposés au Louvre tous les deux ans et qu'il permet ainsi, à travers ces descriptions, de faire connaître à des lecteurs étrangers qui ne peuvent pas venir en France pour voir les tableaux. Donc il les fait vivre à travers ces descriptions. Alors,
mais c'est aussi l'inventeur de la fiction iconoclaste, d'une certaine manière.
Voilà, exactement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'effectivement, pour Diderot, alors il y a plusieurs choses dans sa critique d'art. On voit que quand on lit ces salons Diderot, il ne croit pas fondamentalement à la possibilité pour le texte d'être l'équivalent de l'image. Il y a de toute façon une différence sémiotique, c'est pas le terme de Diderot évidemment, mais enfin ça revient à ça, il y a une différence sémiotique qui fait que le texte et l'image ne sont pas équivalents, et lui-même dira « ut pictura poesis non erit ». Il n'y a pas d'équivalence entre le tableau et le texte. Mais tous ces efforts vont vers une approximation, une forme de ressemblance, alors qu'il n'y croit pas. Et on voit dans ces salons, pour en arriver à la fiction iconoclaste, et pour effectivement alors en faire, si on veut, l'inventeur de la fiction iconoclaste, c'est qu'on voit qu'en fait, il se rend compte que pour arriver à valoriser une image, il faut l'imaginer en partie abîmée, détruite, en partie mutilée.
Et il imagine Greuze, parce que Greuze, on avait accusé un de ses tableaux de peinture de genre, et il a dit, s'il voulait vraiment se défendre, il fallait qu'il la déchiquette.
Alors, c'est extraordinaire, c'est un passage extraordinaire. Donc, c'est un tableau qui est au Louvre, dans l'aile Sully, au Louvre, qu'on peut voir, de Greuze, qui date de 1769. C'est son morceau de réception qu'il présenta à l'Académie pour devenir peintre d'histoire. Alors qu'il s'était plutôt démarqué de son temps déjà, bien avant d'avoir produit ce tableau, c'est le Caracalla. C'était un sujet de l'histoire romaine. Et avant ça, il s'était déjà distingué comme peintre de genre, et l'Académie va refuser ce tableau et l'introduire, non comme peintre d'histoire, mais comme peintre de genre. Donc c'est un déshonneur total pour lui, parce que la peinture de genre est infiniment inférieure à la peinture d'histoire. Diderot commente cette anecdote dans son salon de 1769, Et voilà, il explique.
Il imagine tirer son couteau de sa poche et mettre le tableau en pièces en disant, ben voilà, s'il avait fait ça, d'une certaine manière, il sauvait la valeur de l'art.
Il aurait pu faire croire que ce tableau était un chef-d'œuvre s'il l'avait effectivement découpé. Et garder, dit Diderot, tel personnage et tel personnage qui était plutôt réussi. Ça, il aurait dû le sauvegarder dans la destruction de l'œuvre.
Et est-ce que vous avez une hypothèse sur la question de savoir pourquoi à un moment il y a ces fictions dont vous parlez et avant non ?
Parce que Diderot est effectivement le préfigure ça, mais vous le rappelez, hein, essentiellement, c'est le 19e, c'est Balzac, c'est Gogol.
C'est ça, oui.
Oui, alors bon, avec Diderot, on n'est pas dans les salons sont des descriptions d'œuvres, donc on n'est pas dans la fiction. Hein, mais effectivement, le fait que la fiction, donc la littérature, prend pour objet la destruction d'une œuvre d'art, et que ça n'existe pas avant le 19e siècle, je dirais plutôt brièvement que ça montre qu'il y a une esthétique nouvelle qui se développe, qu'on pense autrement l'art et la littérature, et qu'on ne la pense plus dans une forme de parallélisme et de relation à la peinture, qu'il y a une autonomisation de chacun des arts. Donc, je pense que c'est une explication esthétique hein, que je donne là, mais qui montre qu'on est dans une autre logique artistique. Voilà.
Ben, si tout disparaissait, si la Joconde s'éparpillait, ben, il resterait Lio, Mona Lisa, 1982. L'avenir, c'est le nom de votre roman, le 8e, Stefano Doggi. On a dit qu'on n'allait pas en raconter les péripéties. On a compris effectivement que ça commençait par la destruction de la Joconde, mais il y a aussi, c'est une histoire de cache. C'était une histoire de crypte et de grotte. Les œuvres vont y trouver refuge. Il y a ce Li Fang dont on a parlé, le visiteur chinois du Louvre. Et puis, parce que c'est aussi plus grave, il y a ce beau personnage, Ismaël Ackermann, historien de l'art juif allemand, spécialiste des œuvres d'art disparues. C'est ça aussi, c'est de cela aussi dont on doit parler, Stefano de Guy.
Oui, absolument, de cet homme qui recherche les anciennes caches nazies et qui essaie de trouver les tableaux disparus pour les faire réapparaître, peut-être, à la lumière. Et tout à l'heure, je songeais évidemment à la question du livre comme l'arche de Noé dans laquelle on peut embarquer toutes les œuvres, on peut les protéger de la disparition. Et ce personnage juif, donc par sa destinée personnelle, hautement concerné par la question de la disparition, travaille à retrouver des caches et à les inventorier et à ressortir des œuvres comme si... D'ailleurs, à un moment où les œuvres disparaissent, donc, comme si il s'agissait de réapprendre à regarder ou de retrouver une façon de regarder autrement, peut-être dans une pénombre qui n'est pas les lumières savantes de l'exposition muséale.
Vos deux livres, Nathalie Kremer et Stéphane Audeguy, m'ont fait penser à un autre qui est paru l'année dernière de Piero Calamandrei. Il s'appelle Rencontre avec Piero della Francesca. C'est un court texte de cet historien de l'art italien qui commence en 1938 dans l'inquiétude aussi d'une excursion en Toscane. Il va revoir un tableau de Piero della Francesca qu'il aime beaucoup. Il se dit mais quand est-ce que je le reverrai? On rentre dans la guerre, peut-être va-t-il être détruit. Et c'est la prémonition ou l'inquiétude face à la disparition de l'œuvre. Vous l'avez lu, Stefano Degli?
Oui. Et d'abord, ça m'a ravivé chez moi des souvenirs d'aller voir cette œuvre, parce qu'on va la voir. Enfin, c'est pas comme au Louvre où on peut tomber dessus.
Il y a Madonna del Parto.
La Madonna del Parto.
Qui décrit, vous l'avez sous les yeux.
Oui, qui décrit aussi une apparition elle-même. Alors, il faut faire tout un périple pour y aller et donc s'approcher de cette œuvre, comme on s'approche presque avec précaution de l'œuvre, et qui est une œuvre qui, posée à côté de la Joconde, il trouve des résonances étranges pour moi, puisque on voit une draperie écartée par deux anges, la Madone, et la Madone elle-même désignant dans son vêtement une deuxième fente de tissu, comme s'il y avait une mise en abîme ou une répétition de ce geste-là, qui est frappant évidemment par rapport à la Joconde, parce que la Joconde, elle, justement, n'a pas de bas du corps. Et que peut-être que le bas du corps de la Joconde est figuré par le paysage qui est derrière. Donc cette œuvre m'avait... c'est très curieux que ce que vous dites, que vous ayez pensé à cet ouvrage, parce que j'avais oublié la Madonna del Parto, et je vois maintenant ce rapport profond entre... les femmes et cette espèce d'ouverture-là, de la grotte aussi, le fait que l'œuvre... Alors je trouve particulièrement, le fait que l'œuvre soit comme ça, théâtralisée, je trouve particulièrement émouvant la mise en scène muséale de l'œuvre, puisqu'elle est déchiquetée dans ses bords, elle a été... La fragilité de l'œuvre est inscrite dans l'œuvre, de même que j'aime dans la Joconde, ce que beaucoup de gens n'aiment pas, bien sûr, qui sont les rides de la Joconde, toutes les fissures et toutes ces couches de vernis usées, qui pour moi font partie de la Joconde, qui sont pas, on peut pas fantasmer une œuvre hors du temps, au fond. Toute œuvre, à partir du moment où elle naît, s'achemine lentement, plus ou moins lentement, vers sa disparition.
Puis c'est un dévoilement aussi, Nathalie Kremer, voilà. cette œuvre, La Madonna del Parto, de Piero della Francesca. On décrit effectivement, dans Rencontre avec Piero della Francesca, la manière aussi dont les résistants italiens vont la sauver. Cette question de sauver les œuvres, c'est de cette destruction, y compris fictionnelle, c'est aussi ce qui vous a motivé dans ce livre sur les tableaux fantômes.
Oui, en quelque sorte, puisque effectivement, parler des œuvres, même de celles qui ont disparu, ben, c'est les garder vivantes dans, dans la mémoire culturelle, c'est leur conférer tout de même encore une forme de présence, en fin de compte. Et c'est ça aussi le sens de ce fantôme de l'image qui peut perdurer, que l'image existe ou non, qu'elle y disparu ou non. On a affaire à ces fantômes d'images qui sont celles que nous connaissons, nous gardons, nous imaginons éventuellement des œuvres. Dans la Madonna del Sarto, je ne l'avais pas encore remarqué, mais je le vois là. Enfin, on a l'impression d'une déchirure tout de même.
Oui.
Il me semble. Enfin, il y a comme une forme de déchirure au milieu de ce tableau, puisque c'est la robe qui ne tient plus de cette mère enceinte. Hein, et ça figure en même temps l'avenir, pour reprendre un beau titre de roman.
Et puis, parfois, l'avenir, il est brutalement, il tombe en cendres, parce qu'il y a un incendie. Souvenez-vous, c'était en 2018, le musée national du Brésil était ravagé par les flammes.
Vu du ciel, le musée national de Rio de Janeiro n'est plus qu'un gigantesque brasier. L'incendie s'est déclaré hier soir, peu après la fermeture. Il s'est rapidement propagé à toutes les salles d'exposition, réduisant en cendres des collections d'une valeur inestimable. Ce matin, les Brésiliens ne pouvaient que constater les dégâts, comme cette historienne en larmes.
Ça ressemble à un cauchemar. Je suis allée me coucher en pensant que c'était un cauchemar et que j'allais en sortir en me réveillant.
Non.
C'est un joyau culturel qui est parti en fumée. Cet ancien palais impérial abritait plus de 20 millions de pièces, des momies égyptiennes, des squelettes de dinosaures et même le plus ancien fossile humain découvert au Brésil. Des trésors dont seules quelques rares pièces ont pu être sauvées la nuit dernière par les pompiers et des volontaires.
Qui sait ? Nous pouvons peut-être récupérer un fragment ou quelque chose qui peut encore avoir une valeur historique.
Le musée national venait de fêter ses 200 ans. Des voix se font déjà entendre au Brésil pour dénoncer le manque de moyens dû aux nombreuses coupes budgétaires.
C'est ce que l'anthropologue Daniel Fabre a appelé une émotion patrimoniale, ce sentiment irrémédiable de la perte. Et évidemment, celle du musée de Rio, qui a été vraiment catastrophique, n'a pas été à la mesure de l'incendie de Notre-Dame. C'est donc dire que c'est l'histoire de l'art, de la destruction des œuvres d'art, est aussi une histoire de la domination et de la domination occidentale. Et voilà pourquoi votre livre, Stefano De Guy, commence par un regard chinois et se poursuit aussi par l'histoire d'une jeune orpheline haïtienne. Ça vous intéresse, c'est de déprovincialiser aussi l'histoire de l'art, d'une certaine manière.
Oui, ou de le décolonialiser aussi, mais oui, j'ai inventé un personnage, par exemple, qui est gardien de musée, qui n'a aucune culture artistique au départ, traditionnelle, disons, et qui, nommé dans la salle 837 du Louvre, se met à méditer les œuvres, pas comme un savant, mais tout de même, et donc fait réapparaître les œuvres. Je pense réellement que les œuvres ne vivent que d'être regardées, si, non pas que seulement le regardeur fasse le tableau, mais que on soutient comme ça, ils nous soutiennent et nous existons et les œuvres existent par notre regard et nous sommes aussi regardés par elles et que on a toujours besoin de nouveaux regards et moi qui suis enseignant par exemple, je suis très sensible à l'idée de faire découvrir des œuvres à des jeunes gens parce que c'est toujours un événement, c'est toujours quelque chose et c'est comme ça que les œuvres se perdent. Perdure, c'est d'être mal regardé, donc mal considéré aussi. Et derrière, il y a des questions politiques, puisque là, si j'ai bien compris, le musée brésilien a pâti des coupes budgétaires terribles.
Au fait, on a du courrier ? Ah bah oui, une carte postale.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Mmh.
Cher Patrick, qu'est-ce qui n'est pas là quand des images vous manquent ? En 2005, la photographe franco-marocaine Ito Barada exposait un cliché d'apparence presque abstrait. De format carré, celui-ci figure une surface discrètement striée de lignes régulières où l'on croit reconnaître un lait de papier peint au motif imitation bois. Ce pan de mur tirant sur le jaune pâle se voit ponctué de zones d'une teinte différente, halo d'allure ronde ou rectangulaire aux limites estampées où la surface se colore d'un orangé plus intense. Ce que l'on devine, c'est qu'il y eut là des cadres apposés à ce mur. Des cartouches de formes variées alignées comme le sont aux pages intérieures des albums de Tintin les portraits des personnages secondaires. Photographies ou gravures désormais retirées après avoir fixé le visiteur durant des années peut-être, suffisamment longtemps en tout cas pour qu'autour d'elle le soleil se charge de décolorer le papier peint, dont la teinte originelle reparaît à la faveur de leur absence aux endroits qu'elle couvrirent. Ne reste plus, en guise d'ombre portée, que cette alternance rayée du jaune paille et de l'orange profond, comme la géométrie d'une éclipse enroulée dans le passage du temps. Autrice d'une œuvre que travaille le motif de l'exil, observatrice des vies écartelées entre les deux rives de la Méditerranée, Ito Barada intitule son image de deux mots où percent à la fois l'ironie et le lyrisme. Arbre généalogique. Qu'est-ce qui n'est pas là quand des images vous manquent ? Dans l'un de ses premiers ouvrages intitulé « L'imaginaire » publié en 1936, Jean-Paul Sartre plaçait au fondement de l'image une double négation. Pour reconnaître le motif d'une image, disait-il, pour transiter vers la chose qu'elle figure, la conscience doit nier la matérialité du support qui se présente à elle et viser un être dont le propre est de n'être pas là. Ainsi va, par exemple, la décoration d'intérieur, le motif bois fait oublier le papier peint, le cadre éclipse le motif, l'image encadrée dissipe la conscience du cadre et le souvenir de l'ancêtre qui s'y trouve dépeint ne se lève qu'à omettre le grain de la photographie. Il n'y a donc, conclut Sartre, d'image que pour une conscience dont la liberté native se manifeste à chaque instant dans la négation de ce qui lui fait face au nom de ce qui n'y est pas. Certes, semble répondre l'arbre généalogique d'Ito Barada, mais qu'en est-il lorsque l'image de celles et ceux qui ne sont pas là n'est elle-même pas là ? Quand vous manque non la présence pleine de ceux qui vous ont précédé dans l'existence, qui ont pris le soleil à votre place, qui ont pâli avant vous, mais leur absence, ces images délavées dont l'héritage signale que c'est à votre tour d'aller dans la lumière du jour. Quand leur disparition elle-même a disparu. Décrochez les portraits du mur. Ne reste plus alors qu'à se heurter à l'irrécusable densité des choses, cette tapisserie parcourue de décolorations livides, ou à pleurer l'irréparable lacune de ce qui fut accroché là, qu'on ne sait plus. On reprocha souvent à Sartre, à force de définir la liberté comme un arrachement souverain, de faire peu de cas de ce qu'il faut avoir, positivement avoir, pour être libre. Ito Barada ajouterait ceci, « Pour être libre, il faut aussi une mémoire. Autrement dit, avoir, c'est disparu, dont l'image est une façon de disposer l'absence. » Mais vous connaissez les photographies, Patrick. Parfois, on a l'impression de parler à un mur.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Mathieu Pot-Bonneville, philosophe et directeur du département culture et création du centre Beaubourg. Oui, la mémoire des œuvres. Judith Schlanger a écrit un beau livre qui porte ce titre et vous l'utilisez beaucoup, Nathalie Kremer, dans votre livre. Elle montre comment, au-delà d'une certaine manière de leur disparition, demeure ce supplément imaginatif qui est finalement un mode de survivance.
Oui, en effet, c'est le terme de Judith Schlanker. Le supplément imaginatif accompagne toujours les œuvres, et puis spécialement celles qui n'existent plus, qui ont disparu, et qui génèrent des histoires, des imaginations, des récits, des légendes. Et c'est de cela que s'empare d'ailleurs, évidemment, la fiction.
Mais aussi avec parfois une fureur non seulement iconoclaste,
claste, mais je dirais de profanation, y compris de la littérature. Il y a Pierre Michon dans votre corpus qui a détruit beaucoup. Alors cette fois-ci, ce sont évidemment des œuvres imaginaires, mais qui a fait de ses romans quelques grandes figures de destruction d'œuvres imaginaires.
Alors en fait, je m'étais surtout attachée à un petit roman intitulé « Je veux me divertir » qu'il avait écrit en s'inspirant d'une... une légende qui existe à propos de Watteau, selon laquelle Watteau aurait détruit la partie licencieuse de son œuvre avant sa mort. Et il s'empare de cette légende. Alors, on ne sait pas si enfin, il me semble que les historiens d'art ne sont pas tous d'accord sur que ça a eu lieu ou pas réellement. Mais toujours est-il que, effectivement, Michon s'est inspiré de cela pour écrire son roman.
Ouais. Et puis, dans les deux Beunes, où la petite, d'une certaine manière, profane la grande, ça se termine aussi par un auto-da-fé. Et d'ailleurs, dans son dernier roman j'écris l'Iliade. Il y a cette tentation chez l'écrivain, Stefano de Guy.
Une rage de destruction, vous voulez dire, ou quelque chose de cet ordre, assurément, sauf qu'évidemment, nos destructions, le récit d'une rage de destruction n'est pas tout à fait une destruction, forcément. C'est que le récit.
Ça reste encore un moment d'exaltation littéraire.
Oui, et ça reste aussi un hommage à l'œuvre, enfin.
Oui.
Il me semble que, par exemple, c'est pour ça que mon roman s'appelle L'avenir et pas le futur, il me semble que de décrire la disparition des œuvres est une façon de les faire réapparaître. Enfin, et d'ailleurs, une des sources de cet ouvrage, pour moi, c'était le temps du Covid, où ma compagne et moi-même, nous imaginions de pouvoir aller au Louvre et on essayait de refaire les salles, ou de refaire la grande galerie, ou de replacer les œuvres comme ça. Dans une revisite de salon.
Et très vite, le souvenir recompose.
Ah oui, et puis c'est très bien. Et puis on y retourne après, c'est parce qu'on s'est trompé à peu près dans toutes les... Mais ça fait partie, ces fantômes d'interprétation. Il y a toujours des fantômes entre nous et les œuvres. On crée des fantômes, les légendes sont des fantômes.
Allez, on continue à chanter Mona Lisa cette fois-ci. C'est Nat King Cole.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Tout le monde est extatique dans le studio. Bonjour Sophie Crasse.
Bonjour.
Vous arrivez avec quoi dans votre besace ?
Alors, je voulais vous proposer d'écouter un court extrait tiré d'un épisode de la série américaine Succession. Cette série raconte l'univers impitoyable de la richissime famille Roy, à la tête d'un empire médiatique multinational, dont les équilibres vacillent lorsque la santé du patriarche décline. La scène se passe durant la dernière saison de la série, alors que Logan Roy, donc le patriarche, est décédé, et que pour compliquer encore les tractations liées à sa succession, on vient de retrouver dans son coffre un document griffonné qui semble édicter ses dernières volontés.
Honnêtement, on dirait qu'il a gribouillé ça comme ça, sans l'envoyer à son avocat, et qu'il l'a mis au coffre. Mmh. À mon avis, il vaut mieux le voir comme une sorte de liste de réflexion. Par exemple, on trouve des dispositions concernant la fiscalité à appliquer à son stock d'œuvres d'art.
Quel genre d'œuvres d'art ?
Oh, il a investi à fond dans la période impressionniste. Par exemple, il a au moins 3 Gauguin que personne n'a jamais vus pour raison fiscale.
Il semble qu'il a suggéré qu'il serait plus sage, en effet, de les laisser dans son coffre de Genève.
Eh ben, on n'a qu'à les brûler pour toucher l'assurance, non ?
Oui, ce serait l'idéal. Financièrement, j'entends.
Voilà, avec le cynisme, un brin caricatural qui fait toute la saveur de cette série, l'échange met en scène un autre motif de disparition des œuvres d'art, le bon sens financier. Les Gauguin de Logan sont stockés dans un coffre au port franc de Genève. Personne ne les a jamais vus. Et de fait, ils ne peuvent remplir correctement leur fonction d'investissement que s'ils sont soustraits au regard des amateurs d'art et au regard de l'administration fiscale. À la limite, l'idéal, financièrement j'entends, serait que ces tableaux disparaissent une bonne fois pour toutes, qu'ils soient brûlés pour qu'à l'épreuve du feu, la transsubstantiation de l'art en argent soit complète et que la valeur artistique disparue laisse place à la valeur monétaire de la prime d'assurance. Bon, en un sens, un incendie volontaire cette
fois. C'est ça.
Les ports francs, et celui de Genève en particulier, se sont attirés depuis environ deux décennies, une publicité dont probablement il se serait bien passé, à la suite d'une série de scandales, pièces archéologiques pillées, œuvres d'art volées, soupçons de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Les récits se sont alors multipliés pour raconter de manière plus ou moins romancée ce que les témoins décrivent comme de véritables musées secrets, qui contiendrait plus d'un million de chefs-d'œuvre invisibles, représentant des centaines de milliards de dollars.
Alors c'est vrai que de toute façon, en l'absence de tout inventaire, les chiffres les plus fous sont en circulation.
Ce qui est sûr, c'est que les ports francs se portent bien. Ils se multiplient, ils s'élargissent, ils se remplissent. Et ce d'autant plus, d'après un rapport parlementaire européen, à mesure que la lutte contre le secret bancaire et l'évasion fiscale s'intensifie. Créé au XIXe siècle pour stocker provisoirement des données agricoles en transit, les ports francs se sont réinventés à la fin du XXe siècle comme des coffres-forts de luxe, abritant art, antiquités, vins fins, voitures de course, pour des durées cette fois illimitées. En somme, un régime transitoire perpétuel qui permet d'échapper à l'impôt sur le patrimoine, aux droits de douane ou à la TVA. Alors, Walter Benjamin proposait de considérer l'histoire de l'art comme la confrontation de deux pôles. D'un côté, celui de la valeur culturelle de l'œuvre d'art, et de l'autre, celui de sa valeur d'exposition. Pour la valeur culturelle, c'est-à-dire pour lui la valeur magique de l'œuvre d'art, je cite « seule l'existence des images est importante, et non le fait qu'elles soient vues ». Et il va même plus loin, il écrit, Benjamin, « la valeur culturelle, en tant que telle, exige véritablement que l'œuvre d'art soit gardée au secret. » Et il donne l'exemple des statues de dieux antiques qui n'étaient accessibles qu'aux grands prêtres dans un espace fermé du temple. Benjamin pense la modernité comme synonyme du déclin de cette valeur culturelle de l'œuvre d'art au profit de sa valeur d'exposition, de sa visibilité, qui est, écrit-il, devenue absolument prépondérante. Alors de fait, la financiarisation des œuvres d'art dans ces premiers moments a été fondée effectivement sur l'accroissement de la valeur d'exposition de l'art. Au XIXe siècle, les premières compagnies d'assurance spécialisées pour les œuvres d'art avaient justement vocation à couvrir les risques de leur déplacement au gré des grandes expositions internationales et au gré du commerce aussi de l'art qui se mondialisait. De même, les maisons de vente aux enchères développaient des ventes publiques de plus en plus spectaculaires et médiatisées où se construisait la cote des œuvres. Et cependant, cette visibilité va aujourd'hui de pair avec une mise au secret, comme si la valeur d'exposition se doublait d'une nouvelle valeur cultuelle recodée comme valeur de réserve financière. On peut penser au Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Surmédiatisé lors de sa vente en 2013, il a immédiatement disparu dans le coffre de son propriétaire au Port Franc de Genève. Et il n'en est ressorti que pour être revendu quelques années plus tard. Sa localisation est aujourd'hui inconnue.
Donc en fait, les œuvres d'art disparaissent dans ces zones franches comme dans un trou noir. C'est ça, c'est ouais. Assez fascinant.
C'est assez fascinant et plusieurs artistes sont en réalité partis enquêter justement sur cet espace de disparition sur le terrain au Port Franc de Genève. Ne vous y trompez pas, les images qu'il et elle en ont rapportées sont en fait tout sauf spectaculaires. Sur les photographies, d'ailleurs fascinantes, de l'artiste allemand Ito Steyerl, on voit des hangars ternes et sans qualité, des parkings chargés de conteneurs en métal, une clôture métallique pas du tout impressionnante. Il n'y a littéralement rien à voir. Méditant sur cet espace qui ne cesse de décevoir, de trahir le regard, l'artiste Ito Steyerl écrit « Si ça se trouve, les caisses sont vides. »
Ben oui, et c'est ça la question aussi, Stéphane Audeguy, merci Sophie Crasse, c'est que votre livre « L'avenir », il porte aussi d'une certaine manière, même si c'est par les moyens de la littérature, une critique sociale. Parce que au fond, quelle est la différence entre une œuvre qu'on ne voit plus parce qu'elle a brûlé ou qu'on l'a volée, ou une œuvre qu'on ne voit plus parce qu'elle est dans un coffre?
La différence, c'est le voleur. C'est la confiscation.
La propriété, c'est le vol.
Ouais. C'est le scandale de ces disparitions. C'est l'organisation d'une misère par l'abondance. Enfin, c'est très très compliqué cette question et à la fois passionnante. Mais moi, il m'est arrivé de faire un reportage pour un magazine à Dubaï et j'ai demandé à voir les ports francs. Et c'est la seule chose qu'on m'a interdite de survoler. On avait un avion, on se promenait, et on n'avait pas le droit. Enfin, c'est vraiment, c'est l'équivalent du Vantablack. C'est l'équivalent d'une peinture, donc, peinture d'origine militaire d'ailleurs, qui est noire, mais qui a la propriété très étrange de produire un noir plus noir que tout. Et entre ces ports francs, d'ailleurs, j'imagine des circulations invisibles. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant, je pense, ce système-là. Que d'ailleurs, Benjamin ne pouvait pas prévoir d'une certaine manière.
Oui, parce qu'il y a cette question effectivement de l'aura dont on peut se poser la question de savoir si effectivement la reproductibilité technique la ternit ou pas, Sophie Crasse.
Oui, en m'interrogeant comme ça sur la question de savoir si finalement il y a une différence entre une œuvre d'art disparue parce qu'elle a été brûlée, une œuvre d'art disparue parce qu'elle est en coffre, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les œuvres brûlées, il en reste en réalité quelque chose, des résidus, des cendres. C'est rare que les choses disparaissent complètement. Je ne sais pas si vous connaissez le Salvage Art Institute. Ouais. C'est une institution qui réunit des œuvres endommagées, trop endommagées en fait pour pouvoir être restaurées, et que les compagnies d'assurance en fait ont sorti de la circulation, la compensation financière a été donnée aux propriétaires, et ces résidus demeurent comme des espèces de d'œuvres qui n'en sont plus, en tout cas qui n'en ont plus le statut juridique et commercial.
Oui. Et puis écoutez ça, c'était il n'y a pas si longtemps.
Donc c'est celui-là, Savinon.
Au moment où l'incendie a commencé, on a été même un certain temps avant que l'incendie approche de la maison. Ça a mis à peu près une heure et demie, et donc on a descendu la collection dans une cave qui est bétonnée, qui permet de protéger les œuvres. Donc on a commencé par descendre les tableaux.
C'est l'un des grands maîtres du XVIIIe siècle français. Donc on peut penser à Boucher, on peut penser plus loin dans le siècle à Vigée Lebrun. C'est des artistes qui ont marqué leur temps, qui ont créé une sorte de mode, qui ont bouleversé l'histoire de l'art. Donc c'est évidemment des artistes très recherchés. Tous les grands musées ont des Watteau.
Ça nous fait réaliser combien, en tant que collectionneur, finalement, on ne possède pas ces œuvres. On est là pour les garder pour les générations futures. Et la préservation de ces œuvres est quelque chose qui doit être pour nous, collectionneurs, autant que pour un musée, une mission.
C'était donc le collectionneur Lionel Sauvage et le directeur du musée Condé de Chantilly, Mathieu Daldic, qu'on entendait. Ben oui, évidemment, là, on s'est rendu compte, à la faveur du grand incendie de Los Angeles, du nombre de Watteau qui avait, je vais pas dire confisqué, mais enfin, en tout cas, collectionné, on va le dire gentiment, par tous ces collectionneurs privés.
Et ouais, c'est souvent au moment des catastrophes que se font les inventaires. Et
oui.
Voilà. Les disparitions réapparaissent.
Mais je suis Stéphane frappé par ce qui est dit par cette personne sur être collectionneur, c'est être le gardien.
Ça, c'est Lionel Sauvage, le collectionneur.
Lionel Sauvage, voilà. Ouais. Mais c'est très beau. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec les confiscateurs. C'est-à-dire qu'il se sent investi d'une mission de voilà. C'est on est quand même on a changé d'époque avec ces gens-là, avec ces prédateurs-là.
Alors on a changé d'époque, mais d'une certaine manière, Nathalie Kremer, votre livre sur les tableaux fantômes, il commence au moment où cette époque trouve sinon ses origines, du moins ses commencements, avec Balzac notamment, c'est-à-dire dans ces années 1830, c'est quand même le moment où se reconstruit la valeur de l'art.
Oui, certainement. Hein. Il y a une sorte de prise de conscience de ce qu'on peut appeler la création par la destruction.
Oui.
Voilà. Et c'est quelque chose que justement Gogol, qui est un des, enfin avec Balzac, qui lance un peu ce nouveau paradigme.
Ah oui, Gogol le portrait.
Alors
ça, c'est
Gogol,
formidable.
Voilà, ouais. L'auteur russe qui a écrit cette nouvelle, le portrait, mais il y a deux versions. Donc il a réécrit la nouvelle quelques années après l'avoir écrite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la première version, le portrait, qui est un tableau maléfique, disparaît sous les yeux des spectateurs pendant le temps qu'un personnage raconte l'histoire du tableau. Donc on a littéralement un effacement de l'image par la création de l'histoire de cette image et par, en même temps, la création du récit même de Gogol. Donc l'histoire repose sur cet effacement. Alors ça, c'est la première version. Et puis, quelques années après, il réécrit parce qu'on est dans une veine fantastique, il réécrit la nouvelle de façon réaliste. Et là, il change la fin et c'est pour imaginez que le tableau sera volé, ce qui implique que ce tableau est potentiellement partout et nulle part et qu'il il continue là littéralement comme fantôme potentiellement pouvant ressurgir.
Vous l'avez lu bien sûr, Stéphane Audeguy, Gogol.
Le portrait de Gogol, et je crains que non.
Ah !
C'est une des innombrables choses que je n'ai pas lues.
Mais Balzac, oui.
Un petit peu.
Et et la fin de votre livre, c'est intéressant parce que justement, vous avez la fin, elle change plusieurs fois, et puis finalement, il y a cette idée. C'est pour ça, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, que c'est l'avenir et pas le futur, que tout sera réinventé, à commencer par l'amour.
Oui, parce que je suis persuadé qu'il y a ce lien. Absolument organique entre l'amour et le désir et la production de l'œuvre d'art, et que si cela disparaît, l'art disparaît, alors nous disparaîtrions aussi, et que donc il n'y aurait plus rien à commenter d'une certaine manière.
Oui.
Au lieu que, évidemment, mes personnages, j'imagine un avenir à tout ça et une réinvention. Mais que je ne peux pas décrire, le roman ne peut que s'arrêter sur l'idée qu'il peut y avoir une réinvention de l'œuvre d'art. Mais je ne peux pas la décrire sans tomber dans la futurologie. Donc voilà, on est toujours dans moi, ce qui m'intéresse, c'est cette ouverture-là.
C'est ce fameux amour de l'art, Sophie Grasse, dont on peut être l'historienne comme vous, ou le ou la sociologue, évidemment. Parce que c'est pas parce qu'on a dit l'amour ou l'avenir qu'on a tout dit des valeurs de l'art.
Eh oui, absolument.
My wheels turn.
Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Stéphano Degui, Nathalie Kremer et Sophie Crasse. Les références de vos livres sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son François Saint-Jour et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous, à toutes, à tous.
Keep my heart.